Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba.
Les violences sexuelles ont connu une augmentation de 90% au Mali entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. C'est ce qu'indique le dernier rapport, un rapport de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali publié le 24 mars dernier. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette augmentation des violences sexuelles? Quelles solutions pour mettre fin à ce phénomène? Le Grand Dialogue s'intéresse au sujet avec nos invités. Fatoumata Maïga, directrice du cabinet Essen et ancienne chef de cabinet du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ancienne directrice d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Mariam Sanogo, membre de l'association malienne des droits de l'homme. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
12 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été perpétrés dans les régions du centre et du nord du Mali entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, selon le rapport de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA. Pour plus de détails, je vous invite à écouter ce élément de Ali Sissé.
Dans ce rapport, la MINUSMA parle d'un cas de viol à Gao, 4 cas à Menaka et 7 cas dans la région de Ségou, perpétrés entre le 1er juillet au 31 décembre 2021. Ce qui représente une augmentation de 90% par rapport aux chiffres du trimestre passé où un seul cas de viol a été répertorié, indique le rapport. Les documents soulignent que les auteurs de ces violences sont souvent des hommes armés non identifiés, présumés affiliés à des groupes tels que le Jinin, qui imposent des restrictions à la population des localités qu'ils contrôlent. D'autre part, les documents annoncent que dans certaines régions, notamment Gao et le cercle d'Ansongo, une nouvelle tendance documentée fait état de l'enlèvement des femmes et des jeunes filles en guise de paiement de la zakat dans les villages des communes d'Ansongo et de Ouattaguna. Les familles qui n'ont pas les moyens de payer et qui ne possèdent pas de bétail sont obligés de donner leurs filles en mariage aux membres des groupes armés. Par ailleurs, des cas de mariage forcé avec des membres des groupes armés ont été signalés au centre du pays, dans le cercle de Bankas et de Douanza. Les femmes et les filles ne peuvent pas marcher seules ou être vues avec un homme autre que leur mari, leur père ou leur frère. Le port de la burqa est une obligation. Les groupes armés menacent de représailles les familles des filles qui refusent, précise le rapport.
Alors, Fatoumata Maïga, vous venez d'entendre ce reportage qui décrit la situation des violences sexuelles dans le pays. Je rappelle que c'est un rapport de la MINUSMA. Quelle analyse vous faites de la situation?
Merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, c'est un constat très amer, mais je dois quand même dire que ce sont des chiffres qui doivent être très en deçà de la réalité. Vous savez, les études montrent que, de façon générale, moins de 10% des cas de viol, de violences sexuelles ou basées sur le genre sont reportés ou identifiés. Et nous savons que depuis 2013, même un peu avant, le Mali connaît une situation de surviolence liée au conflit. Mais j'aimerais quand même préciser que les violences qui sont faites aux filles et aux femmes au Mali datent bien d'avant la crise. Ça, c'est important à souligner, que ce n'est pas un phénomène qui est venu dans les bagages de la crise ou des hommes en armes. C'est très important. Et on reviendra sûrement sur les chiffres de ce type de violence. Maintenant, pour les violences liées au conflit, qui semblent être les violences qui sont reportées dans le rapport de la MINUSMA, c'est malheureux, mais je pense qu'il ne saura en être autrement parce que il y a une impunité presque totale des auteurs de ces crimes. Il y a une impunité depuis 2013. Je vais par exemple parler de ce qui s'est passé à Gao. À l'époque où il y avait la rébellion avait occupé Gao et une partie de Tombouctou et qu'il n'y avait plus de forces armées maliennes. Et nous avons les ONG et un certain nombre de structures qui viennent en appui aux femmes ont recensé une centaine de femmes. Il y en a eu plus, hein, femmes et filles, qui ont subi des violences sexuelles très graves pour certaines, avec des filles de l'âge souvent de 10 ans, qui ont subi ces violences et dont les cas ont été soutenus par des ONG, dont Wildaf, des MESO notamment. Mais est-ce que vous savez que de 2013 à maintenant, aucun de ces cas, c'est-à-dire le courage extraordinaire, vous imaginez, pour que ces filles, ces femmes brisent un peu le tabou, se mettent en avant, s'exposent, aucun de ces cas aujourd'hui n'a reçu un traitement judiciaire. On en est à presque une décennie. Donc il y a une impunité parfaite qui, en notre sens et au sens de beaucoup de femmes,
que cette impunité nourrit, qui favorise, qui fait que ce phénomène persiste.
Ça nourrit en tout cas le cercle vicieux, c'est-à-dire que il n'y a pas de reconnaissance. Si on prend le point de vue des victimes, il n'y a pas de reconnaissance de leur souffrance. Il n'y a pas de traitement judiciaire qui puisse mettre un nom sur cette souffrance, la qualifier et bien sûr demander une réparation pour ces victimes-là.
D'accord.
Et, et pourtant, il y a les moyens d'identifier les auteurs ou alors la chaîne de commandement qui a pu, notamment dans le cas de Gao, où nous savons plus ou moins qui était là-bas, qui était en armes. À l'exclusion d'autres forces, il est possible de savoir qui a fait quoi et pour une fois avoir le courage de pointer du doigt le problème, d'identifier des auteurs et d'aller jusqu'au bout de la chaîne judiciaire.
D'accord. Madame Sanogo, vous qui êtes de l'Association malienne des droits de l'homme, êtes-vous d'accord avec l'analyse de Madame Maïga qui parle d'impunité, qui fait que le phénomène persiste? Vous, qu'est-ce que votre association fait, par exemple, par rapport à ça? Mais juste avant, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là, 90% d'augmentation en 3-4 mois. Moi, qu'est-ce que ça vous dit?
Oui, c'est les chiffres qui parlent et c'est les chiffres qui ont été collectés à la suite des documentations sérieuses. Donc, ces chiffres sont alarmants, mais c'est une triste réalité. Et quand on prend même l'enquête des santé et des SM 2018, on retrouve dans ces documents que 45% voilà, des femmes ont subi une violence sexuelle ou physique, voilà, qui ont entre 15 et 45 ans aussi. Donc, quand ma collègue disait tantôt que les questions de violence sexuelle remontent à bien avant la crise, c'est une réalité. Mais ce qui s'est passé pendant la crise a heurté la sensibilité humaine. Donc, à travers plus d'une centaine de victimes de violences sexuelles qui ont été en tout cas auditionnées par nos associations. Et c'est vrai, elle l'a dit, juste après la crise de 2012, en 2013 plus exactement, il y a eu plusieurs organisations de la société civile qui se sont transportées sur le terrain pour documenter les cas de violences sexuelles liées à la crise de 2012. Et là, parmi ces associations, il y avait l'AMDH. L'AMDH, en coordination avec la Fédération internationale des droits humains et d'autres organisations de la société civile. Et on a documenté plus d'une centaines de cas de victimes de violences sexuelles liées à la crise de 2012. Et à la suite de cette documentation, il y a eu une judiciarisation de deux dossiers. Voilà, une judiciarisation à travers des dossiers judiciaires. Et il y a une première plainte qui a été déposée en 2014 par les collectifs, un collectif d'organisations de la société civile, comme je le disais tantôt, qui s'est constitué par civile auprès des victimes, dont la MDH. Et en 2015, un autre dossier judiciaire a été déposé au nom des 33 victimes de violences sexuelles de Tombouctou. Donc, pour les chefs d'accusation, en ce qui concerne les premiers dossiers, c'était crime de guerre, crime contre l'humanité, contre X1, donc au nom de 86 victimes de violences sexuelles. Donc, pour vous dire qu'il y a eu une judiciarisation de ces cas de violences sexuelles liées à la crise de 2012, mais à la suite de cette judiciarisation, il y a eu quelques auditions, voilà, quelques auditions qui ont été encore organisées par des organisations de la société civile, les collectifs des organisations. Et par la suite, il y a eu une stagnation de ces dossiers judiciaires. Et après, au moment où je vous parle, ces dossiers ont été transmis au pôle judiciaire spécialisé, voilà, qui a compétence pour connaître ces dossiers, tous les dossiers qui sont liés à la crise de 2012. Et comme elle l'a dit, sincèrement, jusqu'à présent, aucun jugement n'a été rendu. Mais je pense que les choses sont en train de bouger parce qu'il y a eu des activités autour de ces dossiers, des activités d'activité entre le pôle judiciaire spécialisé et les organisations de la société civile.
Alors, comment vous comprenez cette lenteur dans le traitement de ces dossiers, des cas qui ont été commis depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de jugement? Qu'est-ce qui explique cette lenteur-là?
En fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne des compte. C'est d'abord dû au fait, c'est-à-dire juste après la judicialisation, ces dossiers étaient traités au niveau du tribunal de la commune 3 de Bamako. Et parce que les zones, les juridictions compétentes logées au niveau des régions nord du Mali n'étaient pas sécurisées, voilà, et il y avait, on peut dire que ces juridictions n'existaient même plus, voilà, c'était lié à l'insécurité et à l'administration n'existait plus. Donc, et juste après, quand il y a eu ces semblants d'accalmie, quand ces semblants d'accalmie étaient revenus, et on a encore donné la latitude aux juridictions du Nord de connaître ces dossiers, de traiter ces affaires. Et après...
Alors on sait qu'il y a beaucoup de... Dans beaucoup de régions, il y a une absence de l'administration.
Absolument, absolument. Donc il y a eu tout ce rebondissement voilà, autour de ces dossiers judiciaires voilà, liés aux violences sexuelles. Et après, finalement, sur la base d'un plaidoyer des organisations de la société civile, et on a décidé de désigner le pôle judiciaire spécialisé qui a été créé récemment pour connaître ces affaires, parce qu'on a estimé qu'au sein de ce pôle, ils ont toutes les compétences requises pour traiter ces dossiers. D'accord. Donc, c'est un peu, il y a eu beaucoup de rebondissements autour de ces dossiers.
D'accord. Quand on entend le reportage là qui est fait sur la base du rapport de l'AMUNISMA, c'est les groupes armés, les présumés djihadistes qui sont incriminés. Sait-on pourquoi ces présumés djihadistes là commettent ces actes, ces violences sexuelles là, Madame Maïga?
C'est une question. Je pense qu'il y a des éléments de réponse, mais dans d'autres des rapports précédents, d'autres types de personnes en uniforme ont été pointées du doigt comme étant de possibles auteurs de violences faites aux femmes et aux filles.
Donc les présumés djihadistes ne sont pas les seuls auteurs.
Non, il y a d'autres rapports qui pointent du doigt d'autres personnes en uniforme. Et donc je pense qu'en lisant ces rapports, on se rend compte de l'impunité encore au niveau de l'ensemble des auteurs.
Mais quand vous parlez d'impunité, quand on voit aujourd'hui que la majorité, en tout cas dans ce dernier rapport, on parle beaucoup des présumés djihadistes, qu'est-ce que l'État peut faire contre ces gens-là? L'État ne contrôle même pas l'entièreté du territoire. Est-ce qu'il peut avoir des moyens pour mettre la main sur les auteurs de ces violences sexuelles-là et les juger?
Encore une fois, je n'ai pas eu le rapport, je ne l'ai pas lu. Donc il y a peut-être des éléments, des détails sur ce qu'on appelle les djihadistes. Parce que, vous savez, pour nous qui travaillons beaucoup avec ces populations affectées, il y a une catégorisation en nuance. C'est un peu plus ce qu'on appelle djihadistes. Il y a ce que nous appelons les takfiristes, c'est-à-dire ceux qui déclarent apostat presque tout le monde, tous ceux qui ne professent pas ou ne pratiquent pas leur version de l'islam et qui sont, disons, les plus idéologisés par rapport à leur interprétation de l'islam. Et ensuite, il y a toute une nébuleuse de grands bandits armés qui exercent une terreur peut-être tout aussi grande, mais ils n'ont pas, disons, le même modus operandi. De ce qu'on sait de certaines zones assiégées comme à Farabougou et autres, par exemple, on a eu des retours justement de ces questions de pression avant qu'on arrive, parce qu'il faut qu'on qualifie aussi le type de violence. Il y a les violences sexuelles et d'autres formes de violence. On sait par exemple que lorsqu'il y a eu des négociations pour le cessez-le-feu, des communautés qui assiégées ont demandé à ce qu'on ne force pas, par exemple, les femmes à porter ce que vous appelez la burqa, ou à ce que leur mobilité soit restreinte, qu'elles ne puissent pas aller au champ, cultiver. C'est aussi des formes de violence. Savez-vous que donc, ces communautés sont conscientes des droits de ces femmes et elles ont essayé de protéger ces droits? Malheureusement, dans certains cessez-le-feu, on s'est rendu compte que ces questions, les communautés ont dû céder. vis-à-vis, disons, des takfiristes ou de ce qu'on peut appeler des djihadistes. Ceux-là, le type de violence qu'ils exercent sur les femmes, on peut dire que c'est une violence politique. C'est parce qu'elle a visé également à envoyer un message. C'est un message contre la sécularité, c'est-à-dire l'État laïque. C'est un message qui montre aussi que nous prenons aussi en otage les femmes, parce que malheureusement, les femmes sont le maillon faible de la société, d'où le lien de ce qu'on dit. Ce qui se passe, ce qui arrive aux femmes pendant les conflits, est souvent une continuité du type de non-protection auxquels elles faisaient face avant. Et donc ce sont ces groupes terroristes, en tout cas ceux qui veulent imposer une forme d'islam, qui interdit par exemple la mixité, qui restreint totalement toutes les formes de liberté, lorsque eux commettent ces exactions, c'est clairement aussi à viser de domination en vue de mettre en place un nouveau système. Pour ce qui est le cas des violences sexuelles, vous savez, peut-être que ma collègue de AMDH pourra nous en dire plus. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir des données précises, continues. C'est-à-dire, il n'y a pas véritablement, il y a des initiatives, mais les observatoires qui pourraient évaluer les incidences, les occurrences de violences, qui est victime ? Quand est-ce que ces victimes, quels sont les âges, quel type de violence ? Est-ce qu'il existe au Mali de l'esclavage sexuel, comme on a pu le voir en Irak ? Nous avons des éléments. Nous savons par exemple qu'effectivement, il y a des formes d'extorsion où des familles doivent payer, on nous a dit, un certain montant, 5 000 francs, pour que leurs filles ne soient pas enlevées. Et nous savons ce qui arrive aux filles qui sont enlevées, comme on l'a vu au Nigeria, à Chibok. Elles sont en situation d'esclavage sexuel, où souvent certaines ont des enfants. Donc, selon le type de terroriste, vous avez différents types de violences, sachant par exemple que, je vais m'arrêter là, ceux qui arrêtent des véhicules sur la route jusqu'à Gao par exemple, nous avons eu beaucoup de rapports de viols qui ont été commis contre ces femmes-là et avec malheureusement souvent une forme de sélection comme il a pu y avoir dans certaines contrées du Nord. J'espère que ma collègue va pouvoir en parler. Nous sommes aussi préoccupés du fait qu'il semble qu'il y ait parfois une prédominance, voire une majorité de certaines personnes, à peau noire, il faut le dire, dans certaines localités, qui sont sélectionnées pour subir les violences sexuelles. Et ça, ça doit aussi ressortir. Nous en avons parlé avec TEMET, l'association qui travaille pour la défense des personnes dans des conditions d'ascendance, qui se sont alarmées du nombre proportionnellement très élevé de femmes et filles Bella parmi les survivantes de viols et d'autres types de violences, notamment dans les régions du Nord.
D'accord. Mariam Sanogo, les cas sont répertoriés dans le centre et le nord du pays, dans ce rapport-là. Est-ce qu'on peut comprendre avec ces explications de Mme Maïga que sur d'autres parties du territoire, que ces violences-là surviennent également ?
Alors, quand on prend les rapports de l'AMINUSMA, ces rapports parlent de la situation générale des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le nord, dans les centres plutôt, les rapports parlent plutôt des exactions et des abus qui sont commis sur la population de façon générale et sur les femmes de façon particulière.
Concernant les violences sexuelles,
oui.
C'est le centre et le nord.
Oui, c'est le centre et le nord. J'allais en venir. C'est dans le centre et puis dans le nord. Voilà, on retrouve ces abus de violence, ces abus, ces cas de violence sexuelle que subissent les femmes. Et bon, en parlant des acteurs, il y a plusieurs acteurs. Souvent, on fait attention, on ne les qualifie pas, et parce qu'il y a plusieurs terminologies qu'on utilise souvent, et à tort et à travers, mais on retrouve plusieurs acteurs qui sont auteurs de ces cas de violence. Dans les rapports, par exemple, on parle du port obligatoire de la burqa par les femmes. C'est une réalité. Ça a été documenté par nos associations, d'ailleurs. Et on parle aussi des enlèvements. Les enlèvements de femmes. Et avec les enlèvements, par ricochet, il y a souvent des cas de violence sexuelle. Et on parle même des cas de violence sexuelle. On parle aussi de ces phénomènes voilà, qui consistent à palper les reins d'une femme, voilà, que dans les, au niveau des checkpoints, là, dans les rapports, on cite les djinnines pour ça, donc de palper les reins des femmes pour compter le nombre de perles. Voilà, c'est des traitements cruels, un peu cruels, dégradants, en tout cas humiliants pour les femmes. Donc, c'est une réalité que les femmes vivent, comme vous l'avez dit, dans les centres, dans les nords. Et pour les suites, dans les rapports aussi, on parle de la pratique de l'esclavage par ascendance. Et là-dedans, on ne fait pas trop de focus sur le genre, sur les cas de violence sexuelle qui sont un peu liés à cette pratique-là. On n'en parle pas trop, mais avec TEMED, des associations comme TEMED, ces cas nous ont été rapportés lors des rencontres.
Est-ce que ces pratiques d'esclavage par ascendance peuvent être souvent accompagnées de violences sexuelles, par exemple?
Oui, absolument. Et après avoir échangé avec le nom de l'association Gambada, voilà. Elle est membre de Gambada et il y a des femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle liée à cette pratique-là. Parce qu'elles sont esclaves. Elles sont à la merci de leurs maîtres, donc qui les utilisent comme des objets sexuels. Donc, il y a des cas de violence sexuelle qu'on retrouve dans cette pratique-là.
Alors, Madame Maïga, comment prévenir aujourd'hui ces violences sexuelles, par exemple, celles qui surviennent dans des localités du centre et du nord, par exemple, où l'État est absent dans une bonne partie de ces endroits-là? Comment prévenir ces violences?
D'abord, on va encore et toujours insister sur le continuum, parce que nous ne voulons pas donner l'impression que les violences commencent à partir de 2012, lorsque ce conflit très complexe éclate. Il y avait des violences sexuelles avant le conflit, il y en a pendant le conflit, il y en a encore maintenant. Donc il faut que ce soit clair. Donc les stratégies en fait de lutte contre les violences sexuelles et VBG, les violences basées sur le genre, en temps de paix comme en temps de conflit existent. Si vous me permettez de souligner ça, nous avons le ministère de la promotion de la femme qui est le ministère en charge. C'est des questions multisectorielle, mais il y a un département qui est, disons, responsabilisé parmi tous les autres, c'est le ministère de la Promotion de la Femme, qui a un programme national de lutte contre les VBG qui est en place. C'était l'ancien programme national de lutte contre l'excision qui maintenant est devenu un peu plus compréhensif. Et il y a eu une stratégie qui a commencé à être élaborée. À ma connaissance, cette stratégie n'a jamais été validée. Ça veut dire que ce n'est pas passé en Conseil de ministres et par conséquent, ce n'est pas un document que l'État malien soutient et finance.
Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Dans ces stratégies, donc, disons, puisque la violence est considérée comme une problématique structurelle, il y a un certain nombre d'interventions, notamment la sensibilisation. Elle a toujours cours, c'est-à-dire expliquer en quoi, d'abord, ce que c'est la violence aux femmes, faite aux femmes et aux filles, et son impact psychologique, physique, et son impact même sur le développement. Donc la sensibilisation est l'une des stratégies que le ministère et ses partenaires de la société civile mènent de tout temps. Ensuite, il y a bien sûr, par exemple, par rapport à l'excision, il y a des stratégies, on dirait quelque peu innovantes, qui consistent par exemple à faire abandonner par les populations la pratique de façon collective. Et ensuite, il y a le volet judiciaire, c'est-à-dire la loi. Vous en avez entendu parler. Il y a eu une tentative de faire passer une loi contre les VBG par le ministère de la Femme en 2018, qui a connu malheureusement... ça a commencé en 2018. Et en 2020, il y a une tentative de faire aboutir la loi et ça a rencontré un sort assez funeste. Donc, les violences sexuelles en temps de crise, il y a également, disons, des stratégies, disons, plus ou moins à part, qui sont souvent soutenues, il faut le dire, par la communauté internationale, notamment la MINUSMA, qui a accès, je vais essayer d'aller sur votre problématique, qui a accès, un peu plus même que nos instances gouvernementales, au plus fort de la crise, qui a accès à certaines zones où on reporte ces violences-là. Mais moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que l'État est moins présent, parce qu'il y a tout un débat sur la présence même de l'État sur ces questions avant la crise. C'est-à-dire, est-ce que même avant la crise, notre système judiciaire, est-ce que notre justice était réactive? Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Donc j'aimerais aussi que le débat soit très nuancé, parce qu'il ne faut pas blâmer la guerre pour, disons, l'irresponsabilité. Je suis peut-être un peu dure, mais les lacunes de notre système étatique à protéger les femmes, ça existait avant. Pour plein de raisons. Les femmes n'ont pas accès aux structures de justice et aussi le traitement qu'elles ont pour celles qui y vont, comme vous avez vu, des cas qui durent jusqu'à 10 ans. Et je vais vous dire, quelque part, il n'y a rien de plus terrible pour une jeune fille qui doit braver le stigmate, la stigmatisation, se montrer, parce que c'est des questions de tabou, et à qui on dit il faut vous battre contre l'impunité, et qui en face a une sorte de déni de justice. Donc c'est très difficile. Voilà, donc si je dois résumer, vraiment considérer cette question structurelle. Le comportement de nos institutions face à ce problème avant la crise peut avoir, pas une corrélation, mais clairement il y a une continuité dans les défaillances jusqu'ici.
D'accord. Est-ce que la lutte contre les violences sexuelles se buterait à d'autres réalités qui sont ancrées dans notre société bien avant la crise?
On a une très grande tolérance culturelle. Je ne dirais pas la violence sexuelle. La violence sexuelle, surtout lorsqu'elle porte sur les femmes mariées, est honnie dans nos sociétés, qu'elle soit bambara dans nos cultures. Mais nous avons une culture de tolérance à la violence de façon générale qui peut faire que lorsqu'elle survient, les réactions ne sont pas les bonnes. Lorsque vous excisez jusqu'à 80% de votre population féminine au nom de certaines interprétations de la religion musulmane qui ne sont pas généralement acceptées d'ailleurs ailleurs, lorsque vous dites qu'une femme qui se est battue par son mari, mais qui l'accepte, assure la bonne éducation de ses enfants, nous avons un système d'éducation des filles à accepter la violence et un système qui peut pousser les garçons et les hommes à la considérer normale, à la banaliser. Maintenant, la question de la violence sexuelle elle-même, je suis d'accord, de façon générale, elle est bannie par les religions, par les cultures. Mais regardez la réaction de la société lorsqu'elle survient. On essaie d'arranger ça de façon générale par l'amiable et ça souvent, il en résulte une forme d'impunité, en tout cas des auteurs, et une non-prise en charge des jeunes filles et des femmes qui en sont la victime.
Mariam Sanogo, que deviennent les victimes de ces violences sexuelles?
Alors, les victimes, nous continuons à échanger avec certaines d'entre elles. Voilà, toujours dans la dynamique de la prise en charge judiciaire, psychologique. À notre niveau, c'est sur tous ces deux volets. On travaille surtout sur ces deux volets. Donc, la prise en charge judiciaire, la prise en charge psychologique. Mais il y a certaines qui sont décédées. Et au moment des faits, d'autres étaient mineurs, voilà, qui sont devenus majeurs. Et aussi, il y a ce manque de confiance qui est en train surtout de s'installer entre ces victimes et nous. C'est une triste réalité, mais il faut le dire. Et parce que ça fait quand même près de 10 ans qu'on travaille sur ce dossier qui ne bouge pas. Donc ça, c'est un peu lié au fait qu'il existe un vide juridique pour ce qui concerne la protection de ces victimes-là. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de loi relative à la protection des victimes, ni de loi relative à la protection des témoins au Mali. Donc ça, c'est un point qu'il faudra souligner. Donc nous travaillons avec ces victimes dans la plus grande insécurité juridique.
Mais est-ce que vous, en tant qu'association de défense des droits humains, vous vous êtes battu pour ça, pour qu'on puisse lever ce vide juridique?
Absolument, absolument. On n'a pas de loi des lois qui ont été adoptées dans ces sens, protection des victimes, protection des témoins, mais on a deux avant-projets de loi. Voilà, des avant-projets de loi qui ont été ficelés en collaboration avec les organisations de la société civile. Donc, c'est un début de solution au problème. Mais voilà, c'est avant l'adoption d'un avant-projet de loi, c'est tout un processus, on attend.
Mais est-ce que les victimes osent briser le silence ? Souvent, quand on sait qu'il y a voilà, le poids de la société, souvent il y a certains cas qui sont tabous, les gens n'osent pas en parler. Est-ce que de plus en plus, avec le soutien que vous apportez aux autres victimes, il y en a qui osent briser le silence?
Alors, ma collègue a parlé d'un aspect très important. Il s'agit des violences, c'est-à-dire de faire la nuance entre les violences sexuelles en temps de paix et les violences sexuelles en temps de conflit. Donc, c'est des situations, des contextes différents. Donc, c'est une violence sexuelle reste une violence sexuelle, mais en temps de conflit, c'est encore plus complexe. C'est très complexe. Pour ce qui concerne les victimes dont on parle, elles ont subi ces violences en temps de conflit armé. Et donc, c'est vrai, ils se sont confiés et on a utilisé nos stratégies qu'on a développées, les stratégies de protection de ces victimes, des données, des protections de nous-mêmes en tant que agents de monitoring. Cela n'empêche qu'il faut dire que ces victimes sont exposées. Elles sont exposées parce qu'elles vivent avec leur bourreau. Les victimes vivent avec leurs bourreaux et comme je le disais tantôt, il n'y a pas de loi qui les protège. C'est vrai, la loi, c'est un acquis, mais c'est la théorie, on peut dire. Mais la pratique, c'est autre chose. Mais ces victimes, en se trouvant, en cohabitant avec leurs bourreaux, ont vraiment souvent peur voilà, de se confier. Et c'est toute une stratégie que nous développons pour que ces victimes puissent pour les permettre de se confier à nous dans la plus grande confidentialité. Et ça amène d'autres bien évidemment à se confier à nous et je pense qu'on continue, le travail de monitoring continue, ça continue sur le terrain et les organisations de la société civile n'ont pas arrêté ce travail-là. Ça continue.
Alors, Madame Maïga, quand on regarde ce que vient de... quand on analyse ce que vient de dire Madame Sanogo, des victimes qui sont souvent voilà, avec leur bourreau dans les mêmes endroits et ce qui fait qu'elles n'osent pas s'exprimer souvent, est-ce que cela aussi ne favorise pas le fait que le phénomène persiste? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Oui, je pense qu'elle a pointé du doigt une réalité très douloureuse. C'est pour ça, encore une fois, dès lors qu'on banalise l'acte et qu'on ne rend pas responsable ceux qui sont là, hein, que comme pour certains, en tout cas, ils sont soit dans la communauté, en tout cas, on les reconnaît, on crée une situation impossible à... On ne peut pas dépasser ce problème-là. Les impacts psychologiques sur les femmes, certains sont documentés. Elles savent, elles vivent, il y a la peur. Il y a la peur, parce qu'en plus, elles ont osé témoigner. On sait qui elles sont. Mais je voudrais dire quelque chose. Pourquoi c'est difficile de traiter des cas de violence sexuelle en temps de conflit? Il n'y a pas que le Mali. On regarde le cas de la RDC. On regarde le cas d'autres pays. On sait que lorsqu'il y a des processus, disons, de négociation et de paix, où... dire la vérité crue, où des personnes, en tout cas, ils n'ont jamais été condamnées, mais identifiées comme des auteurs, sans presque aucun doute, ou en tout cas qui ont été impliqués dans la chaîne de commandement. Par exemple, quand je vous dis que lorsqu'on ne viole que certaines personnes de certaines communautés, ou en tout cas elles sont violées de façon disproportionnée, on sait que ça ne s'est pas fait par hasard. On sait que plus que pour les autres formes, il y a une décision de prendre celle-là plutôt que d'autres. Donc, la juridiction internationale, l'égalité internationale s'intéresse aussi à la chaîne de commandement. Au Mali, il était possible d'identifier la chaîne de commandement dans les cas notamment des viols commis à Gao. On pouvait savoir durant une certaine période qui avait fait quoi ou qui n'avait pas empêché. En l'absence, il n'y avait que certains types de personnes en armée. Certaines de ces personnes, ou en tout cas leurs représentants, se retrouvent aujourd'hui autour de la table de négociation, en tout cas ayant des fonctions
par rapport à la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc ça, c'est une réalité. Ce sont des personnes qui détiennent un pouvoir que leurs victimes n'ont pas. Et par ailleurs, des viols continuent. Ce rapport le dit. Et vous savez qu'en ce moment, à Menaka, il y a beaucoup de civils qui aujourd'hui sont sous les feux. Avons-nous des informations sur le sort des femmes?
Le micro.
Oui. Oh, excusez-moi. Je me suis éloigné. Excusez-moi. Je disais qu'il y a les cas non incidents, c'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins passés, et les cas incidents, ceux qui sont maintenant aujourd'hui. Sûrement, même au moment où je vous parle, peut-être être en train d'être commis. Et donc, moi, je n'ai pas la réponse. Mais nous avons des stratégies, encore une fois, et l'État du Mali a une responsabilité à laquelle elle ne peut pas déroger, transition ou pas, temps de paix ou pas, temps de conflit ou pas. Au minimum, il faut qu'il y ait une volonté politique claire affichée par rapport à ces femmes-là, par rapport à celles qui ont été victimes depuis 2013. Nous parlons des cas de violences sexuelles liées à la crise. Que ces questions soient résolues, soient priorisées dans, par exemple, l'accord de paix. Est-ce que c'est le cas? On sait qu'il y a la CVGR, mais je sais aussi que la CVGR n'a pas pu apporter, à travers ce qu'elle appelle la justice transitionnelle, une résolution à ça. Ça veut dire que, donc, je vais résumer. Il faut que ce problème soit considéré comme un problème, une priorité, et qu'il y ait des indicateurs convenus de tout le monde pour qu'on sache comment cette priorisation, cette volonté politique est matérialisée. Est-ce que c'est les fonds que l'État va mettre à disposition des organisations de la société civile? Est-ce que ce sont les fonds qui vont être mis pour réparer plus ou moins l'énorme préjudice subi par les femmes? Et est-ce que ce sont les dispositions pour qu'il n'y ait plus jamais ce genre de choses à travers les lois? Voilà ce qu'il faut pouvoir faire. Et donc, l'action de l'État est indispensable au-delà de la bonne volonté des organisations de la société civile. Parce que c'est son rôle régalien d'apporter ce type de protection.
Mais comment l'État peut trouver le juste milieu entre trouver tous les moyens pour faire la paix, quitte à amnistier des anciens bourreaux et également protéger ses victimes? Comment trouver le juste milieu?
Mais la légalité internationale a déjà tranché. Il y a des crimes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une amnistie. Je pense qu'elle va nous en parler un peu plus. Les crimes de guerre, les violences sexuelles commises comme armes de guerre ne peuvent pas être. Il n'y a pas de prescription en principe. Et par exemple, même dans le cas du DDR, du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, on est censé faire un vetting, c'est-à-dire un système de vérification pour voir parmi les personnes qui ont pris des armes et qui peuvent être réinsérées. Normalement, si parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont été soupçonnées ou bien jugées ou condamnées pour avoir commis des violences sexuelles, normalement, ces personnes ne peuvent pas faire partie de ce processus. Donc, la question est tranchée, c'est de dire non. Ceux qui se sont rendus coupables de ces genres de violences sexuelles, pour des raisons politiques ou liées au conflit, pour amener la terreur qu'on connaît, ne peuvent pas avoir une forme de protection. Ils ne peuvent pas être sanctuarisés, que ce soit par un accord de paix ou par d'autres types. Maintenant, à l'AMDH, par exemple, de faire l'analyse de la loi d'entente, où je pense qu'il y a eu une loi, est-ce que certaines personnes sont passées à travers les mailles? Ils ont été amnistiés pour d'autres faits, mais en même temps, ils pouvaient peut-être être condamnables pour ces faits de violence sexuelle.
C'est la question que j'allais poser à Mme Sanogo. On sait que votre association, comme d'autres associations, ont dénoncé cette loi d'entente nationale qui aurait été prise au nom de la paix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut dire non à une telle initiative et continuer de poursuivre des anciens bourreaux qui pourraient être des acteurs primordiaux dans le règlement de la crise?
Alors, je pense que c'est un choix que l'État doit faire, le choix de la justice, pour qu'on dépasse cette crise. Parce que sans justice, il n'y aura pas de paix. Nous, on l'a dit, on ne se fatiguera pas de le dire. Il faut donner une réponse à ces dossiers judiciaires-là. L'État doit faire tout mettre en œuvre, mettre les jugements, c'est-à-dire les traitements, j'allais dire même avec célérité, de ces dossiers au-dessus du tout. Donc, les autres considérations, en termes de paix, voilà, faire les choix entre les traitements de ces dossiers et faire les compromis, voilà, tout ça, je pense que c'est l'État qui doit décider. Mais l'État en général, comme au sein de l'État, il y a aussi les organisations de la société civile, et heureusement, on consulte, l'État nous consulte souvent. Et là, si on nous demande aujourd'hui, nous, on penche vers le côté de la justice. Il faut que justice soit rendue à ces victimes pour qu'on puisse dépasser cette crise. Sinon, ça va être très difficile de consommer la paix dans ces conditions.
Mais est-ce que les méthodes de prise en charge des victimes, est-ce que ça les encourage à se déclarer?
Oui, ça les encourage dans la mesure où, par exemple, au sein des organisations de la société civile, la stratégie, c'est l'écoute, l'accueil, l'orientation, le référencement dans la plus grande confidentialité avec le consentement des victimes ou des survivantes à tous les niveaux. On ne fait rien sans leur consentement. Et les stratégies, les développer de telle sorte qu'on assure la sécurité des données, c'est-à-dire des informations que la victime va nous communiquer, et la sécurité de la personne même de la victime. C'est très important pour nous. Et donc, c'est une stratégie qui est expliquée aux victimes dès le début du processus et qui les met en confiance. Donc, les victimes se confient à nous, voilà, dans cette dynamique-là. Et aussi, quand on sort du cadre des organisations de la société civile, aussi ces structures qui ont été créées par l'État à la suite de la crise, les One Stop Center, les guichets uniques, donc qui sont des structures voilà, qui sont bien qualifiées pour tout ce qui est confidentialité autour des victimes, autour des données, voilà, qui assurent même une prise en charge holistique des victimes. Donc il y a eu beaucoup de travail à ce niveau, les victimes ont été prises en charge du point de vue médical, psychologique, et voilà, entre autres. Et là, ça les pousse à venir vers nous et à aller aussi vers ces centres-là.
Alors, Madame Maïga, vous qui êtes ancienne chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, Madame Sanogo l'a dit, il y a un vide juridique par rapport aux violences sexuelles. Ça veut dire que rien n'est prévu par la loi pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse dépasser ce stade-là, pour qu'il y ait plus de vide juridique par rapport à ça?
D'accord.
Au niveau du ministère.
Pour ce qui est du viol, allez-y. Oui.
Par rapport au vide juridique, j'ai parlé du vide juridique en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des questions de violence sexuelle, il n'y a pas de vide juridique. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a une insuffisance. Voilà, il y a une insuffisance de l'arsenal juridique existant, mais il n'y a pas de vide juridique.
D'accord. Donc il y a une loi qui est prévue en cas de violence sexuelle.
Oui, le code pénal. Le code pénal prévoit le viol. Bon, maintenant, les violences sexuelles en temps de conflit, peut-être qu'il n'y a pas de précision, mais le viol est puni dans le code pénal, l'article 200 quelque chose. Mais si vous posez une question, vous me renvoyez la balle, puisque je parle de la responsabilité de l'État. Effectivement, quand j'ai assumé un rôle dans le dispositif étatique, c'était de 2014 à fin 2015, jusqu'à ce que la loi 052 passe. C'est un travail que j'ai effectué de longue haleine avec la ministre Omoba à l'époque. Et son équipe. C'est une question, voyez-vous, c'est pas que je suis gênée, c'est que aucun ministre, aucune femme ministre et son équipe n'ont été en fonction sans avoir été face au problème des lois, des réformes législatives par rapport aux questions, pas seulement de viol, mais de violence générale qu'on fait aux femmes, que ce soit l'excision, que ce soit les violences domestiques, que ce soit les violences sexuelles, en temps de conflit ou pas, la question a toujours été qu'est-ce qu'on fait, pourquoi nous n'avons pas de loi, et nous avons été en but permanemment avec cette question. Je pense qu'il faut bien comprendre que si on avait le temps, au Mali, notre Assemblée nationale a été très peu performante lorsqu'on fait une analyse sur les 60 ans de notre indépendance. Est-ce que vous savez que de façon presque systématique, les lois progressistes pour protéger les femmes ou avancer la situation des femmes ont été bloquées à l'Assemblée. Que la loi 052, qui est l'une des rares lois progressistes pour les femmes depuis l'indépendance, elle a été initiée par l'exécutif. C'est très important à comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons au sein de nos assemblées des représentants du peuple, une très grande forme de résistance. Nous avons des forces très conservatrices, très puissantes. Personne n'a oublié ce qui s'est passé en 2010 avec le code de la famille.
D'accord.
Donc la responsabilité de l'État, vous me l'avez demandé, elle est partagée parce que nous sommes dans un pays de démocratie où les pouvoirs sont distincts. Mais moi, je peux vous dire que l'exécutif au Mali, avec la loi 052, a été plus performante en termes de propositions de réformes législatives que ne l'a été notre Assemblée.
D'accord.
Je pense que les organisations de la société civile doivent poser cette question-là. Pourquoi les représentants du peuple malien ne défendent pas des causes qui, en principe, intéressent la population malienne et que nous dépendons, disons, du président en place, du parti politique en place, qui, bien sûr, ont parfois des intérêts.
D'accord, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Dernière question à Madame Sanogo. Comment lutter contre le phénomène au Mali?
Oui, le phénomène des violences sexuelles au Mali, pour lutter efficacement contre ces fléaux, je pense qu'il faut travailler sur trois axes. Il y a l'éducation, la sensibilisation et aussi le deuxième point, c'est surtout la loi. Donc il faut renforcer l'arsenal juridique et qui va par ricochet lutter contre l'impunité. Voilà, il faut absolument lutter contre l'impunité.
D'accord.
Et le troisième axe, c'est surtout renforcer les mécanismes de protection, de prise en charge. On a cité le One Stop Center et tout le travail que les organisations, la société civile font.
D'accord.
Voilà.
Cela est bien compris et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue. Il parlait aujourd'hui des violences sexuelles. Comment lutter contre le phénomène au Mali? Nos invités étaient Fatoumata Maïga, présidente de la coalition des femmes leaders du Nord, du Centre, du Sud, directrice du cabinet SN et ancienne chef de cabinet du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et Mariam Sanogo, membre de la commission des membres de l'Association malienne des droits de l'homme. Sekou Gadjigo a mûri ce débat qui a été mis en onde par Nouhoum Djiré. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.